Donc, l'exposé reprend.
Alors, au Maroc, Hassan II poursuivait la sale guerre au Sahara contre les 500 000 Sahraouis qui vivaient sur un territoire grand comme la moitié de la France. Le roi voulait pouvoir disposer des richesses en minerais, des gisements de phosphate du territoire parmi les plus importants du monde. Il tenait aussi à contrôler la large façade atlantique qui abrite de riches eaux poissonneuses et de possibles gisements de pétrole. En féodal, il fondait sa revendication sur la base de liens d'allégeance passés entre les tribus sahraouis et les sultans du Maroc. De son côté, l'Algérie invoquait l'inviolabilité des frontières coloniales et soutenait la République sahraoui en disant agir au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En réalité, elle convoitait, elle aussi, un débouché maritime sur la façade atlantique qui l'aurait renforcé face au Maroc. Entre 1975 et 1990, l'armée du Front Polisario mena avec l'appui de l'Algérie une longue guérilla contre l'État marocain, qui empêchait celui-ci d'exploiter le Sahara à sa guise. Hassan II bénéficiait du soutien de l'impérialisme français. Les Sahraouis, réfugiés dans les camps en Algérie, gardent en mémoire les bombardements français de l'opération Lamantin menée en 1977 contre le Front Polisario. Avec l'aide de techniciens français, d'experts israéliens et américains et du soutien financier saoudien, le Maroc fit construire un mur de sable de 2720 km. Cette barrière est protégée de remblais et radars et par des milliers de soldats stationnés en permanence. Des 10 millions de mines seraient disséminées le long de ce mur qui a de fait divisé le Sahara en deux. Les 80% les plus riches à l'est, contrôlés par le Maroc, et les 20% à l'est, sous le contrôle du Front Polisario. Les assauts du Polisario ont ainsi été circonscrits à une zone éloignée du Sahara le plus riche. Pour autant, le Maroc, au bord de la ruine, était incapable de vaincre le Polisario. Ainsi, en 1991, après 15 ans de combat qui avait coûté la vie à 10 000 hommes, Hassan II dut se résoudre à un cessez-le-feu. Il acceptait le principe d'un référendum d'autodétermination organisé sous l'égide de l'ONU, mais n'allait cesser de manœuvrer pour en empêcher la tenue. Au début des années 2000, aux 200 000 soldats présents sur le territoire marocain, s'étaient ajoutés 200 000 colons marocains. Leur installation avait été encouragée par le pouvoir à coups d'aide, logements, produits de première nécessité à bas coût, transport gratuit, salaire majoré pour les fonctionnaires. Il s'agissait de rendre l'annexion irréversible et de diluer le poids numérique des Sahraouis. Le coût pour les classes pauvres marocaines était exorbitant. L'État consacrait au début des années 2000 encore un cinquième de son budget à l'entretien des troupes au Sahara, tandis que plus de la moitié de la population marocaine à l'époque était analphabète et que 13% d'entre elles vivaient sous le seuil de pauvreté. En revanche, ces sommes englouties au Sahara profitèrent à des affairistes marocains et aux industriels de l'armement. L'américain Westinghouse avait installé une couverture radar pour 250 millions de dollars, et la France s'était chargée, elle, de l'équipement et de l'entraînement de l'armée à la guerre, de l'armée de terre. Le Sahara, présenté comme une cause nationale sacrée, permis à la monarchie de domestiquer tous les partis politiques. Tous s'étaient inclinés sur cette question, et ceux qui ne s'y pliaient pas furent réprimés, à l'image du plus célèbre militant emprisonné sous les geôles de Hassan II, Abraham Serfati. Issu d'une famille juive marocaine, il avait quitté le Parti communiste pour fonder un groupe maoïste. Sa critique de la monarchie et sa dénonciation de la guerre coloniale au Sahara lui valut d'être accusé de complot contre la sûreté de l'État et condamné à perpétuité dans la tristement célèbre prison de Kenitra. Malgré les humiliations et la torture, il refusa de revenir sur ses positions. Après le scandale provoqué par la publication du livre de Gilles Perrault, « Notre ami le roi », le pouvoir lui inventa une nationalité brésilienne pour l'expulser. Quand Hassan II mourut en 1999, il laissait en héritage à son fils Mohamed VI une fortune considérable. Il héritait du premier groupe privé marocain et de parts dans de nombreuses entreprises étrangères telles que l'entreprise allemande Siemens. Selon le journal Le Monde, Hassan II possédait une vingtaine de comptes en banque copieusement garnis, un château en Île-de-France, plus d'une vingtaine de palais dissimulés à l'abri des regards, tous prêts à le recevoir 24 heures sur 24. Mohamed VI, qui lui succédait, entendait incarner un renouveau en rupture avec les années de plomb d'Hassan II. Alors âgé de 33 ans, il voulait apparaître moderne, en phase avec la jeunesse, proche du peuple, et se faisait appeler le roi des pauvres. Mais il a marché sur les traces de son père sur la question du Sahara, dont il a accéléré l'exploitation des ressources. À l'automne 2010, 20 000 Sahraouis s'étaient donné rendez-vous à Gdem Izik pour dénoncer la marginalisation dont ils étaient victimes. Aucun média n'a été autorisé à couvrir l'événement. Et loin des regards, les forces de sécurité encerclèrent leur campement de 7 000 tentes. Le 8 novembre, à l'aube, l'armée donna l'assaut. Il y eut 11 morts côté marocain, 36 côté Sahraoui et des centaines de blessés. Voilà les secrets du développement harmonieux au Sahara tant vanté par la propagande royale. Une propagande que les politiciens français ont relayée sans aucune honte, en particulier depuis décembre 2020. En effet, le 10 décembre 2020, un mois après la reprise des combats entre le Polisario et l'armée marocaine, le président Donald Trump, à quelques jours de la fin de son premier mandat, annonçait que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette reconnaissance, qui s'inscrivait dans les accords d'Abraham, parrainée par Trump, visait, au nom de la paix au Proche-Orient, à normaliser les relations entre les États arabes et Israël. C'était un deal à la manière de Trump. La reconnaissance du Sahara marocain contre la normalisation avec Israël. En réalité, cette normalisation était dans l'ordre des choses, tant les liens entre Israël et le Maroc ont toujours été étroits. Cette annonce brisa le statu quo et déséquilibra la région, réveillant les tensions algéro-marocaines. La révélation par la presse des écoutes massives dont l'Algérie avait été la cible de la part des services de renseignement marocains via l'opération Pegasus précipita la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. En août 1921, l'Algérie fermait le gazoduc alimentant l'Espagne via le Maroc, ce qui privait celui-ci d'un accès au gaz algérien. Le Maroc, fort du soutien américain, engagea un bras de fer avec tous les pays qui ne reconnaissaient pas le Sahara comme faisant partie intégrante de son territoire. En 2022, l'Espagne cédait aux pressions marocaines et l'an dernier, en 2024, c'était au tour d'Emmanuel Macron, soucieux de protéger les intérêts de la bourgeoisie française dans ce pays. En effet, alors que la guerre commerciale fait rage, que les troupes françaises ont été chassées du Sahel, il est vital pour l'impérialisme français de conserver sa place de premier partenaire commercial au Maroc. Et ce, d'autant plus qu'il se voit détrôné en Algérie par les concurrents turcs, chinois et surtout italiens. En contrepartie de cette reconnaissance, fin octobre, lors de sa visite d'État au Maroc, Emmanuel Macron a bénéficié d'un accueil fastueux et surtout d'une pluie de contrats d'une valeur de 10 milliards d'euros. Parmi la délégation pléthorique figuraient des ministres et des personnalités qui ont toujours cultivé des liens avec le royaume, où toutes les facilités leur sont offertes pour passer des vacances de rêve. Mais pour les hommes d'affaires présents dans la délégation, c'est la manière habituelle de travailler et de préparer au mieux le terrain. On ne compte plus le nombre de séjours privés au Maroc d'hommes d'affaires qui se trouvent être des dirigeants de Engie, Safran, Total Energy, Suez ou Veolia. Le groupe Alstom est sur les rangs pour produire et livrer 168 trains. Airbus aurait conclu la vente de 15 à 18 hélicoptères. EDF construirait le projet d'autoroute électrique au nord du Sahara occidental entre Dakhla et Casablanca. Total Energy a signé de son côté un contrat de 2 milliards d'euros pour un projet de production d'hydrogène vert sur la côte atlantique du Sahara. Toutes ces transactions cyniques faites au mépris des intérêts du peuple sahraoui sont révoltantes. La population marocaine et algérienne paie très cher les tensions entretenues par leurs gouvernements respectifs et attisées par les puissances impérialistes. Ces rivalités ne sont pas les leurs, mais celles de leur bourgeoisie, qui s'accroche à leurs frontières et compte sur leur appareil d'État pour se protéger de leurs rivales et défendre leur accès à la mangeoire. Mais c'est à l'échelle de tout le Maghreb que les rivalités, les tensions incessantes et les états de guerre périodiques ont empêché ne serait-ce qu'une coopération économique. Oh, cette coopération fut bien tentée en 1989, alors que le Maghreb était étranglé par le FMI et que la guerre au Sahara occidental avait ruiné le Maroc. Cette année-là, Hassan II et Chadli Ben Jedid posèrent les armes pour donner naissance à l'union du Maghreb arabe. Mais l'espoir fut de courte durée et cette union resta une coquille vide. En 1993, le Maroc accusa les services secrets algériens d'avoir commandité les attentats commis contre un hôtel à Marrakech. Les ressortissants algériens ou franco-algériens sans carte de séjour durent quitter le royaume. Le Maroc instaura un visa pour les Algériens, qui pouvaient jusque-là entrer librement. L'Algérie répliqua en fermant la frontière terrestre entre les deux pays. Cette fermeture a depuis 30 ans coupé les liens humains intenses qui existent de chaque côté de la frontière. Les peuples le payent aussi économiquement, par la course à l'armement à laquelle se livre leur gouvernement. Ces dernières années, elle a atteint des sommets. L'Algérie est le plus gros acheteur d'armes en Afrique. Elle y a consacré 24 milliards de dollars en 2024. Le Maroc, pour 2025, a prévu un budget de 13 milliards de dollars pour les forces armées royales. Ces deux pays totaliseraient plus de 60% des achats d'armes en Afrique. C'est un gâchis considérable. Alors que les populations du Maghreb sont frappées par une grave crise sociale, un chômage de masse, une très forte inflation, des services publics qui se dégradent, une part croissante des richesses est dilapidée dans l'achat d'armes. Cette escalade et le climat belliciste qui l'accompagne sont instrumentalisés par les régimes marocains et algériens pour attiser le nationalisme et faire taire les contestations. Les dirigeants du Maghreb savent qu'ils soient installés sur des volcans qui peuvent à tout moment se réactiver. Dans les années 2000, la situation pourtant paraissait sous contrôle des dirigeants. En Algérie, Bouteflika, qui avait inauguré sa présidence en réprimant une révolte d'ampleur en Kabylie, réussissait à s'imposer en s'appuyant sur les aspirations d'une population qui, après le chaos de la décennie noire, voulait la paix et la stabilité. Au Maroc, Mohamed VI entendait incarner un renouveau en rupture avec les années de plomb. Dirigé par Ben Ali, la Tunisie était montrée en exemple pour sa stabilité. On parlait alors du miracle tunisien. Les accords de libre-échange signés avec l'Union européenne en faisaient un paradis pour les 1200 entreprises françaises qui s'y étaient installées. Pour Faurecia, Valeo, PSA, Renault, la Société Générale, ou Danone, c'était effectivement un miracle. Ils disposaient d'une main-d'œuvre pas chère, qualifiée, et sous contrôle d'une police qui surveillait les quartiers populaires grâce à des milliers d'indicateurs. Derrière le miracle, il y avait des régions à l'abandon, un chômage de masse et une population qui n'acceptait plus la misère. En 2008, les travailleurs du bassin minier de Gafsa s'insurgèrent contre la direction de la mine, qui avait procédé à des embauches marquées par le clientélisme et le favoritisme. Durant 6 mois, la population se révolta contre l'arbitraire et contre le chômage qui touchait un tiers de sa jeunesse, alors que les mineurs travaillaient dur pour extraire le phosphate. La colère sociale s'accumulait. Elle explosa fin 2010, dans la ville de Sidi Bouzid, quand un jeune vendeur ambulant s'immola par le feu après que la police lui ait confisqué sa marchandise. Cet acte de désespoir ébranla tout le pays. Il fut le point de départ des printemps arabes, qui s'étendit à la Tunisie et allait toucher l'ensemble des pays arabes. En Tunisie, en l'espace de quelques semaines, le mur de la peur était tombé. Aux revendications sociales s'étaient mêlées les revendications politiques. « Ben Ali, dégage ! Le peuple veut le changement du régime !» Ben Ali reçut le soutien de Sarkozy et de sa ministre des Affaires, Michèle Alliot-Marie, qui lui offrit le savoir-faire des forces de sécurité françaises. Pour rétablir l'ordre et préserver leurs intérêts, les États-Unis, eux, firent le choix, en concertation avec le chef de l'armée tunisienne, de lâcher le dictateur qui les avait si bien servis. C'est ainsi que Ben Ali, dictateur de la Tunisie pendant 23 ans, dut, en toute précipitation, prendre un vol sans retour pour l'Arabie saoudite. En ce printemps 2011, les Tunisiens étaient fiers et heureux d'avoir réussi à chasser un dictateur qui paraissait indéboulonnable. Cette victoire nourrissait un espoir immense de changement. Ben Ali s'était comporté en mafieux. Il avait confisqué 400 entreprises. Son clan possédait des centaines de comptes en banque, des dizaines de yachts, des tableaux de maîtres, le tout évalué à 13 milliards d'euros. Non, de dollars, pardon. Ben Ali avait réussi à faire l'unanimité contre lui. Chômeurs, avocats, petits commerçants, journalistes, travailleurs et même patrons, toutes les classes sociales applaudissaient à son départ, mais toutes n'avaient ni les mêmes attentes, ni les mêmes intérêts. Chasser un dictateur ne suffisait pas. Encore fallait-il renverser le pouvoir économique que ce dictateur servait. En effet, l'ordre social injuste, cause de tant de souffrances, ne reposait pas que sur un seul homme, aussi riche fut-il. Ben Ali était parti, mais le système capitaliste, l'État et l'appareil de répression de la bourgeoisie tunisienne, relais de l'ordre impérialiste, eux, étaient toujours là. La chute de Ben Ali fut suivie d'une période d'effervescence sociale, ponctuée par des manifestations, des grèves ouvrières et des occupations. Les classes opprimées luttaient pour leur survie et attendaient le changement. La vie politique fut marquée par la dissolution du parti de Ben Ali, le RCD. Les hommes politiques trop compromis s'éclipsèrent et un ancien ministre de Bourguiba, Béji Caïd Essebsi, fit son retour. Des partis jusque-là interdits réapparurent, comme le Parti communiste, le Front populaire, un regroupement de diverses forces de gauche, ou encore le parti islamiste Ennahda, lié aux Frères musulmans. L'élection d'une assemblée constituante et la démocratie étaient présentées par tous comme la solution pour aller vers le changement, y compris par Ennahda, qui se défendait de vouloir bâtir un califat. Son leader, Rached Ranouchi, se revendiquait d'un islamisme modéré avec pour modèle la Turquie d'Erdogan. Ses militants avaient su résister à la répression et se réorganisèrent vite, gagnant en influence dans les milieux populaires que les partis démocrates ignoraient, voire méprisaient. En octobre 2011, en remportant l'élection à l'Assemblée constituante, Ennahda devenait la première force politique. Il allait avoir un rôle dirigeant dans le gouvernement de transition jusqu'en 2014. Pendant près de 3 ans, au sein de l'Assemblée constituante, le camp des modernistes et le camp des islamistes s'affrontèrent sur de nombreux articles de loi. S'ils divergèrent sur de nombreux sujets, ils défendaient les uns et les autres le même camp social, celui de la bourgeoisie, sa propriété privée et son droit à exploiter les travailleurs. Ils ne proposaient rien pour répondre aux difficultés sociales majeures qui avaient été à l'origine de la révolte. Ben Ali était là et n'était plus là, mais la corruption restait présente à tous les étages de la société. Les travailleurs devaient lutter pied à pied contre les mêmes patrons et étaient réprimés par la même police. La majorité des Tunisiens pauvres des villes et des campagnes vivaient dans une misère noire. La révolte tunisienne fut contagieuse dans le monde arabe, même si nous ne parlons pas ici de l'Égypte, du Moyen-Orient ou de la Libye et du Soudan. Mais au Maroc, la colère conduisit au mouvement du 20 février, que le roi réussit à désamorcer par une réforme constitutionnelle, qui a accordé plus de pouvoir au Premier ministre sans que rien ne change sur le fond. En Algérie, la contestation prit la forme de grèves, manifestations et émeutes. Et en fait, le Maghreb était ébranlé pour longtemps. À l'automne 2016, c'est encore contre la misère que la population du Rif marocain s'enflamma. Dans cette région pauvre, le souvenir de la révolte d'Abdelkrim contre l'Espagne et la France coloniale est toujours vivace. Dans la ville portuaire d'Al-Hoceima, à 300 km de Tanger, la mort de Morsine Fikri, un vendeur de poissons, mit le feu aux poudres. La police avait confisqué sa marchandise et l'avait balancée dans une benne à ordures. Pour récupérer son poisson, le jeune sauta dans le camion et fut broyé. Des images de cette scène horrible se répandirent sur les réseaux sociaux, déclenchant une émotion et une colère infinies. Dans les jours suivants, la population protesta massivement contre les violences policières, le mépris et l'arbitraire. Le Irak, le mouvement en arabe, s'étendit aux villages environnants et se mua en un vaste mouvement de masse contre la corruption et la marginalisation de la région. Des portraits d'Abdelkrim et le drapeau de la République du Rif étaient présents dans les cortèges. Sur les banderoles, on trouvait la question posée par Abdelkrim en son temps : êtes-vous un gouvernement ou un gang ? Durant des mois, la population se mobilisa à travers des marches hebdomadaires. Elle exigeait des réformes et établit un cahier de revendications. La vigueur du mouvement, son caractère de plus en plus politique, firent craindre au pouvoir marocain une résurgence des printemps arabes. Un dispositif de 25 000 policiers fut déployé pour contenir les manifestants. Sur ordre du ministère des Affaires religieuses, les imams dénigrèrent le Irak. En retour, les manifestants décidèrent de boycotter les mosquées. Lorsque Nasser Zefzafi, un jeune chômeur, figure de proue de la révolte, interrompit le prêche d'un imam pour dénoncer ses attaques, il fut aussitôt arrêté et condamné à 20 ans de prison. Dans plusieurs villes du pays, des manifestations éclatèrent. Ils furent plus de 50 000 à défiler dans les rues de Rabat, la capitale. Face à un mouvement qui menaçait de s'étendre, la répression monta d'un cran. Dans le Rif, la condamnation de manifestants à de lourdes peines décapita le mouvement. Les procès des détenus furent l'occasion de nouvelles mobilisations, mais le pouvoir avait finalement réussi à éteindre l'incendie. Mais les braises de la révolte sont toujours là, et elles ne s'éteignent jamais, et elles se rallument toujours quand on s'y attend le moins. Ainsi, en Algérie, en 2019, l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, alors qu'il était muet et invalide, fut vécue comme l'humiliation de trop. Bouteflika, qui avait été épargné par la vague de dégagisme durant le printemps arabe, déclencha le mouvement populaire le plus important de l'histoire du pays. Comme en Tunisie, toutes les couches de la société descendirent dans la rue pour exiger son départ. Le peuple algérien demandait des comptes à un pouvoir mis en place au lendemain de l'indépendance du pays, accusant les dignitaires d'avoir pillé ses richesses. Dégagez le système, qu'ils partent tous. Ces slogans signifiaient pour les classes opprimées ne plus être écrasées, méprisées, être libres, avoir des droits. Nourrir sa famille, se soigner, avoir un logement et vivre dignement. Les classes populaires n'attendaient rien des partis dits d'opposition, islamistes et démocrates, qui avaient tous apporté leur soutien direct ou indirect à Bouteflika. Rejetés, aucun de ces partis ne put s'imposer comme une direction du mouvement. Celui-ci réussit à chasser Bouteflika et à empêcher la tenue des élections présidentielles. Mais si des millions d'Algériens, dont la plupart issus des classes populaires, manifestant pendant des mois, réussirent à faire tomber la façade du régime, cela ne pouvait suffire. sans vraie direction propre et sans objectif politique précis, c'est finalement le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, qui s'imposa en prétendant répondre aux exigences de l'Irak. Il le fit par une spectaculaire opération main propre. Des grands patrons, des hauts fonctionnaires, une dizaine de ministres et même deux premiers ministres se retrouvèrent sous les verrous. Mais lui, le système était toujours là. En décembre 2019, malgré les appels au boycott, Abdelmadjid Tebboune fut élu président, devenant la nouvelle façade civile du pouvoir des généraux. En Tunisie, les classes populaires finirent par rejeter tous les partis qui leur avaient chanté les louanges de la démocratie. Lors de l'élection présidentielle de 2019, Kais Saied, un obscur professeur de droit à la retraite, affilié à aucun parti, surfa sur ce rejet. Il l'emporta haut la main face à un homme d'affaires, Nabil Karoui, alors en prison pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Face à un tel adversaire, Kais Saied, qui avait mené une campagne contre la corruption, n'eut aucun mal à incarner la modestie et la probité d'un petit fonctionnaire. Ce nationaliste conservateur et religieux marqua des points dans l'opinion populaire quand il s'attaqua au régime parlementaire. En mars 2022, en concertation avec l'armée, il proclama la dissolution du Parlement et décréta l'état d'urgence. Il jeta les bases d'une nouvelle constitution qui lui permettait de museler les opposants de tous bords. Le leader d'Ennahda écopa de 3 ans de prison pour avoir simplement évoqué un risque de guerre civile en Tunisie. En septembre 2024, dans un scrutin joué d'avance, Kais Saied était réélu président avec 90% des suffrages. Mais cette fois-ci, avec un taux de participation de 28%, soit la plus forte depuis 2011. Le même mois, en Algérie, dans un climat répressif et face à 2 candidats triés sur le volet, Abdelmadjid Tebboune se faisait élire à un second mandat, mais là aussi avec un très faible taux de participation. 14 ans après le printemps arabe, quelques années après les Irak marocains et algériens, les régimes au Maghreb sont engagés dans une fuite en avant de plus en plus autoritaire. Les droits démocratiques sont bafoués, les libertés piétinées, les opposants traqués. Tout est prétexte à une mise au pas qui vise à créer un climat de peur et de délation. Brandir le complot intérieur et la manipulation étrangère est une accusation dont les régimes usent largement pour arrêter les opposants réels ou supposés. En Tunisie, pour ce motif, une 40aine d'opposants viennent encore d'être condamnés à de lourdes peines de prison. Les centaines de détenus d'opinion qui croupissent toujours dans les prisons algériennes pour avoir, par exemple, relayé simplement le hashtag « Je ne suis pas content » n'ont pas bénéficié en France du même soutien que l'écrivain Boualem Sansal. Si nous condamnons son emprisonnement, nous condamnons tout autant l'hypocrisie des politiciens qui, de l'extrême droite à une partie de la gauche, exigent sa libération et s'opposent en défendeur de la liberté d'expression. Car ici, en France, elle est où la liberté d'expression quand un Retailleau tente de museler ceux qui dénoncent la politique criminelle de Netanyahou en les assimilant à des antisémites? Elle est où la liberté pour le militant Georges Ibrahim Abdallah, accusé sans preuve et qui croupit dans les prisons françaises depuis plus de 40 ans? Concernant le Maghreb, on n'a pas entendu les soi-disant démocrates français protester contre le sort fait aux 200 détenus d'opinion du RIF, condamnés à 20 ans de prison. Ils n'ont pas non plus levé le petit doigt après la condamnation du journaliste marocain Souleymane Rassouni, dont le seul crime est d'avoir dénoncé le népotisme et la corruption qui gangrènent le Maroc, comme dans toutes les sociétés du Maghreb. Macron, Retailleau, Le Pen ou Ciotti d'un côté, Tebboune, Mohamed VI ou les Caïs Saïd de l'autre sont des frères jumeaux, prêts à utiliser les mêmes méthodes. Eux et le système qu'ils servent ne méritent qu'une chose, celui d'être définitivement renversés. Le Maghreb est toujours un Eldorado pour les entreprises françaises, même si elles sont concurrencées par d'autres. Elles sont 600 en Algérie, 1000 au Maroc, 1500 en Tunisie, Total, Orange, Carrefour, Peugeot. Et de nombreuses petites entreprises dans les secteurs du textile, de l'aéronautique, de l'électronique, emploient en Tunisie 150 000 travailleurs. Le régime autoritaire de Kais Saied a tout pour les séduire. Quant à la monarchie marocaine, elle leur apparaît comme un gage de stabilité propice à leurs affaires. Cette semaine, le magazine Challenge en a fait sa une. Au-dessus du portrait de Mohamed VI, on peut lire « L'anti-Algérie, Maroc, le Paris de la France, l'Eldorado pour le business ». Un titre qui résume tout. En effet, la construction du TGV, dont le coût est évalué à plus d'un milliard d'euros, a surtout profité à Colarail, Thales, Engie. Alstom a pu vendre 12 rames sans répondre à aucun appel d'offres grâce à une faveur de Mohamed VI, qui est passé de roi des pauvres à celui de roi du capitalisme marocain. Challenge révèle également qu'il contrôle une grande partie de l'économie marocaine et quant à sa fortune personnelle, en 2015, donc il y a 10 ans, elle était évaluée à 5,7 milliards et elle aurait considérablement augmenté. De son côté, le premier ministre marocain Aziz Hanouch fait partie des premières fortunes privées du pays. Il est le patron du groupe Afriqiya, la principale société de distribution du carburant. Il vient en tant que chef de gouvernement de signer un contrat avec 3 entreprises, dont sa propre holding familiale, pour la construction d'une grande station de dessalement à Casablanca. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il s'est accordé une subvention de plusieurs milliards de dirhams. Avec la construction d'infrastructures modernes, comme le port de Tanger, Tangermed, le TGV Casablanca-Tanger, avec ses parcs industriels et éoliens, ses immenses exploitations agricoles, ses centres commerciaux rutilants, ses palaces de luxe, le Maroc est présenté comme un modèle de réussite et de développement. Mais derrière la vitrine du littoral se cache la pauvreté. Un taux d'analphabétisme de 30%, des écoles délabrées, des routes impraticables et des bidonvilles, comme on a pu le voir au moment du tremblement de terre en septembre 2023. Ces inégalités et cette pauvreté, on les retrouve partout au Maghreb. Pour inonder le marché européen de fruits et légumes, quelques riches familles marocaines et tunisiennes se sont emparées des meilleures terres et de 85% de l'eau, alors que les campagnes sont ravagées par la sécheresse. Aujourd'hui, de Rabat à Tunis en passant par Alger, les travailleurs subissent les assauts d'un patronat qui profite du chômage pour imposer des conditions de travail déplorables. Ainsi, à Tanger, au Maroc, la grande majorité des 55 000 ouvrières qui travaillent dans 417 usines textiles ne sont pas déclarées. Le 8 février 2021, suite à des inondations, 28 ouvriers, dont 20 femmes, ont péri noyées dans une usine située en sous-sol. Le patron n'a jamais été inquiété, et les familles des victimes qui exigeaient la justice ont été intimidées par la police. L'an dernier, à Boumerdès, en Algérie, aucune enquête n'a été ouverte lorsqu'une dizaine d'ouvrières d'une usine de briquets sont mortes brûlées vives suite à l'explosion d'une tube de gaz. Ces travailleuses et ces travailleurs, exploités par des patrons locaux ou étrangers, subissent d'un bout à l'autre du Maghreb des conditions de travail et de vie très proches. Ils sont confrontés au même bas salaire, à la même inflation, au même flicage permanent, à l'intégration des syndicats aux régimes en place. Et les uns, comme les autres, se sont révoltés à plusieurs reprises ces dernières années, affrontant la répression avec courage et se battant contre ce qu'ils appelaient le système. mais le système qui les opprime et qu'ils doivent renverser. Ce ne sont pas seulement les appareils d'État, les appareils policiers et militaires qui se durcissent dans chacun des pays, avec la complicité de l'État français. Le système qui les exploite, c'est le capitalisme qui a soumis toute la planète à sa domination, la transformant en une seule et même entité économique et soudant ensemble des travailleurs dans un sort commun. Les liens qui unissent entre eux les travailleurs du Maghreb, les liens qui unissent les travailleurs de part et d'autre de la Méditerranée ne sont pas seulement des liens familiaux ou des liens forgés par une longue histoire commune. Ces travailleurs sont reliés par la même chaîne d'exploitation et enrichissent la même bourgeoisie. À la vieille bourgeoisie française, aux Bouygues, Peugeot, Arnault et compagnie, se sont ajoutés quelques bourgeois marocains, algériens et tunisiens qui ont été des grands gagnants en indépendance. Soixante ans après les indépendances, les classes opprimées du Maghreb ont fait l'amère expérience que la fin de l'oppression coloniale ne signifie pas la fin de la pauvreté. Les dirigeants nationalistes ont créé des États qui se sont moulés dans les structures héritées de la colonisation et sont devenus les garants de l'ordre impérialiste. Mohamed VI, Tebboune, Kais Saied jouent tous les trois le rôle de garde-frontière pour le compte de l'Union européenne. Ils refoulent avec brutalité les migrants subsahariens qui veulent se rendre en Europe. Quant au rôle d'auxiliaire de l'ordre impérialiste au Sahel, que l'Algérie a longtemps occupé face aux milices plus ou moins djihadistes, les États-Unis et la France viennent de l'attribuer au Maroc. Les dirigeants nationalistes ont sacralisé les frontières de la colonisation, séparant les peuples et entravant leur circulation. La création d'États séparés, avec leurs hymnes, leurs drapeaux, a été présentée au peuple du Maghreb comme le seul moyen de s'émanciper, alors qu'elle les divise et alimente des conflits entre eux. Aujourd'hui, les frontières, avec leurs murs de sable, leurs barbelés, sont les barreaux d'une prison où les classes opprimées sont doublement exploitées. Si personne ne regrette le système colonial avec sa barbarie, ses pillages, son racisme et ses humiliations, il ne peut y avoir d'émancipation tant que se maintiendra la domination impérialiste sur toute la planète. Combien de peuples qui ont durement combattu pour leur indépendance en Afrique, en Asie ou ailleurs sur la planète en ont fait la dure expérience ? Au Maghreb, où la question du Sahara occidental aggrave les tensions, quel avenir pour le peuple sahraoui ? Dépendance espagnole, marocaine ou création d'un minuscule État vulnérable ? Aucune de ces solutions ne peut offrir une réelle perspective. Bien sûr, ce n'est pas aux États puissants voisins ni aux puissances impérialistes intéressés par les richesses de son sous-sol de décider de l'avenir du Sahara occidental. C'est au peuple sahraoui et à lui seul de décider de son propre sort. Mais l'avenir pour le peuple sahraoui ne peut pas être au sein d'un Maroc ou d'une Algérie qui oppriment eux-mêmes leur propre peuple. L'avenir est à une fédération fraternelle de tous les peuples du Maghreb. Les pays du Maghreb, avant et après les indépendances, n'ont cessé de connaître des luttes qui ont pris parfois la forme de véritable explosion sociale, durable, déterminée. Mais partout, elles se sont heurtées à un même mur. Des révoltes se reproduiront, on ne peut en douter, d'un bout à l'autre du Maghreb et même du reste du monde arabe. On ne peut que partager la rage qui met périodiquement en mouvement les travailleurs et les masses populaires de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Mais la question qui leur est posée, et que nous devons nous poser avec eux, est celle des perspectives politiques. Tous les soulèvements populaires partent d'une révolte causée par les exactions et les injustices du système économique et social. C'est le cas pour le jeune pour le suicide de Mohamed Bouazizi en Tunisie, ou la mort de ce jeune vendeur de poissons écrasé dans une benne à ordures. Mais ces explosions de colère doivent trouver une issue. Les travailleurs et les classes exploitées qui ont été aux avant-postes de ces mouvements ont agi sans conscience de leurs forces et de leurs intérêts en tant que classe distincte. Or, il existe une infinité de forces politiques prêtes à les exploiter, à les canaliser, pour finalement les engager dans une impasse. Cela va des diverses variantes de démagogues islamistes aux généraux, en passant par les politiciens experts en ravalement de façades démocratiques pour maintenir le système en place. Alors, la politique qui se contente de dire « dégage » aux politiciens en place, ça ne suffit pas. Quand un politicien dégage, 10 autres sortent de leur trou pour prendre la place. Au contraire, il faut que l'énergie déployée au cours de ces mouvements serve à faire un pas en avant vers la révolution, vers une révolution qui s'en prenne au système capitaliste lui-même et à l'impérialisme. C'est là le rôle historique qui revient à la classe ouvrière. La lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie se déroule à l'échelle de la planète. Et c'est à cette seule échelle que le capitalisme peut être combattu. Car seule cette échelle peut permettre une organisation supérieure de l'économie. Ce n'est qu'à l'échelle internationale que l'on pourra résoudre les défis auxquels l'humanité est confrontée au Maghreb et ailleurs. Par-delà les frontières qui les divisent. Il faut qu'au cours de ces mouvements, les travailleurs des différents pays réussissent à augmenter leur conscience de classe et se rapprochent du programme de la révolution prolétarienne, du programme de la révolution socialiste internationale. Il faut que, tôt ou tard, les travailleurs s'emparent de ce programme, car d'autres révoltes, d'autres mouvements ne manqueront pas de se produire. Mais ce qui manque le plus, ce sont des hommes, des femmes, des militants, des partis qui, au cours de ces révoltes, que ce soit au Maghreb ou ici, en France, en Europe, défendent le programme de la révolution prolétarienne mondiale, le seul programme capable de donner une véritable perspective à toutes ces luttes des exploités.